Radio Okapi.
Le journal avec Jacques-Yves Molima.
Le prix des produits de première nécessité prend de l'ascenseur à Bukavu, une situation qui affecte la majorité de la population composée de gangs petits. Des prisonniers meurent à la prison centrale de Mambasa en Ituri, 500 morts jeudi dernier, portant à 11 le nombre de décès en l'espace de 2 semaines. À la base de cette situation, les mauvaises conditions de détention qualifiées de violations graves des droits de détention par les activistes des droits humains. Le Fonds mondial et l'ONU-SIDA ont organisé du 11 au 13 avril dernier une réunion à Nairobi au Kenya sur l'évaluation et les nouvelles stratégies pour l'éradication de la pandémie du VIH-SIDA dans la sous-région de l'Afrique Est-Ouest d'ici 2030. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Au Sud Kivu, la hausse des prix des produits de première nécessité continue de s'observer en ville comme dans les territoires. Cette situation affecte la population qui est en majorité composée de gangs petits qui ne vivent qu'avec peu de moyens rassemblés difficilement au cours de la journée. Les causes sont multiples par rapport à chaque milieu, Jean-Baptiste Tonga.
Dans la ville de Bukavu, depuis le début de la semaine, on observe une augmentation des prix de pain et d'autres pâtisseries dans les boulangeries. Et morceaux de pain qu'on achetait à 1000 francs congolais se vend actuellement à 1200 ou 1500 francs congolais. Les gestionnaires des boulangeries justifient cette situation par les prix revus à la hausse des matières premières utilisées dans la fabrication des pâtisseries. Plus loin dans le territoire de Kalehe, pour quitter Bunyakiri vers Bukavu à moto, un passager qui payait 20 000 francs congolais paye actuellement jusqu'à 60 000 francs congolais. Au marché, un sachet de sel qui coûtait 500 francs revient à 1000 francs congolais. Le bidon d'huile de palme de 20 litres qui s'achetait à 20 000 francs congolais revient actuellement à 44 000 francs congolais. À Moulungu, dans le territoire de Shabunda, un verre de sucre passe de 1000 francs congolais à 1500 francs congolais. L'impraticabilité ou l'absence de route serait aussi l'une des causes de la montée vertigineuse des prix des produits de première nécessité en province. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, le syndicat de défense des intérêts des consommateurs de l'eau et de l'électricité, Syndis, demande à la régie des eaux de rembourser des fonds, selon lui, indûment perçus auprès des consommateurs dont les facturations ont été forfaitaires. Il réclame aussi la suppression des factures dans les endroits où l'eau ne coule plus au robinet. Pour la régie des eaux, ce sont des cas individuels que les clients peuvent soumettre à l'institution. Mathieu Ilunga Chamboui.
Le syndicat Syndis rapporte dans une correspondance adressée cette semaine à la régie des eaux une dizaine de plaintes des abonnés différentes de la seule agence de la commune de Karisimbi. Les plaintes qui portent sur les factures du mois de septembre 2021 à février 2022. Ces abonnés, dans l'ensemble, ont des compteurs en panne, non remplacés par la société et sont sommés de payer au moins 30 mètres cubes d'eau chaque mois qu'ils ne consomment pas. Ce que cette structure considère comme une violation flagrante des dispositions de loi sur l'énergie en RDC. Raisonné Kambale Kivikiro est le secrétaire général de Syndis.
Nous avons estimé que les perceptions qui ont été réalisées de façon illégale pour rembourser ces frais-là, tout en lui ramenant aussi les compteurs par l'ordre d'annulation des factures qui ont été émises à partir du mois de septembre 2021 jusqu'au mois de février 2022. C'est par rapport à l'irrégularité de la desserte en eau potable.
Interrogé, le directeur provincial de la régie des eaux, David Angoyo, dit que sa structure est disposée à recevoir le plein et les revendications de tout client qui se trouve lésé. Mathieu Ilunga Chamboyo Monachebe, Goma, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, les autorités coutumières ainsi que les responsables politico-administratifs sont accusés d'ingérence dans la gestion des forêts communautaires. Tel est le cas des forêts de Basugo et Bapondi, situées respectivement à 138 km et 143 km sur la nationale numéro 4 à l'est de Kisangani. Les dénonciations ont été faites lors des entretiens que le président du comité consultatif des forêts a eu avec ces communautés lors de son passage dans leur localité mardi dernier. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Hormis Basugo, dans la localité Bapondi, le chef de secteur de Bekeni Kondololé, Victor Kitabou, est accusé d'avoir attribué des portions de terre à des tiers dans la concession qui n'est pas la sienne. Madame Valentine Natikotiko, présidente du comité local de gestion. Les gens plantent le cacao, les palmiers dans ma forêt communautaire sans me consulter. Mais quand je vais entreprendre une activité quelconque, ils m'interdisent. C'est le chef de secteur et ses frères qui agissent ainsi, alors qu'il ne dispose pas de forêt. Ces allégations sont rejetées d'un revers de la main par l'incriminé. Selon lui, il n'a jamais franchi les limites de son domaine. Moi, je suis Mouyego. Vali se bat contre les Bayego. Je ne sais pas si notre gouvernement peut attribuer à quelqu'un un espace et le pouvoir sur un groupement sans que vous ayez une portion de terre. Moi, je ne me suis pas trompé. C'est donc l'État congolais qui nous a induit en erreur. C'est lui qui m'a attribué l'espace que j'occupe. Le président du comité consultatif provincial, François Batoubou, promet de faire rapport au gouverneur de province par intérim afin que justice soit faite. Ainsi, le calme régnera dans toutes les localités où se pose ce genre de problème. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Autre nouvelle, le nouveau chef du secteur de Bampéré, Maneno Kamba Sauti, a été installé ce vendredi. Il a pris ses fonctions au cours d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur sous la supervision de l'administrateur du territoire de Lubero. À cette occasion, le colonel Alain Kiwewa appelle la population de Bampéré à collaborer avec le nouveau chef et de se méfier de toute manipulation. L'administrateur du territoire de Lubero a été joint au téléphone par Sadiki Aboubakar.
Mais puisque ce monsieur était déjà là il y a pratiquement 3 ans, il a travaillé dans le secteur pendant au moins 5 ans, et alors je lui ai demandé seulement une seule chose, de faire une autocritique de soi-même, et il va s'amender par rapport à ce qu'il avait fait auparavant. Et le message que je lance, c'est conscientiser, de sensibiliser les éléments des groupes armés qui sont aux alentours du secteur de la Péré, de les conscientiser, de venir nous rejoindre, de regagner maintenant les anciennes vies. Ceux qui allaient à nos études vont continuer leurs études. Ceux qui étaient dans des métiers professionnels, ils vont continuer leurs métiers professionnels. Et je demande à la population de suivre un seul homme, donc d'être derrière leur chef et de ne pas écouter ni à gauche ni à droite, de collaborer, de parler le même langage, et ça pourrait les aider à évoluer calmement dans le secteur.
Rappelons que l'ancien chef de cette entité extra-coutumière, Kombi Nepanepa, a été suspendu par le gouverneur de province du Nord Kivu, notamment pour malversation financière. En Ituri, 5 détenus sont morts jeudi dernier à la prison centrale de Mambasa, à 165 km de Bunia. Selon la société civile locale, cela porte à 11 le nombre de décès survenus dans cette maison carcérale en l'espace de 2 semaines. À la base, les mauvaises conditions de détention. Des activistes des droits humains parlent de violations graves de droit à la détention, mais les directeurs de cette prison parlent de manipulation de la part de certains acteurs de la société civile qui, selon lui, dramatisent la situation. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Selon le président de la nouvelle société civile congolaise de Mambasa, les détenus sont soumis à des actes dégradants et inhumains à la prison de Mambasa. John Vuleverio ajoute que le régime alimentaire de ces prisonniers est maigre, ce qui, selon lui, serait à la base du décès des 5 détenus jeudi. John Vuleverio.
Ils sont nourris très difficilement et à quantité très précaire. Nous sommes à 11 cas de détenus qui sont décédés. La prison n'est pas un mouroir, la prison n'est pas un lieu où il faut mourir obligatoirement. Tous les jours, les tripoteurs passent avec une personne ou des personnes décédées pour l'enterrement.
Le directeur de la prison centrale de Mambasa rejette ces affirmations qu'il qualifie d'exagération, voire de manipulation. Daniel Bahati.
On n'a pas eu ces 5 décès à la prison de Mambasa. Il peut y avoir des décès comme dans toutes les prisons, mais ce n'est pas fréquemment comme on cherche à amplifier ça. Non, pas 5, il n'y en a pas. Bon, moi, je n'ai pas dit cette information, je me réserve.
Notons enfin que selon la société civile de Mambasa, 25 décès des détenus sont déjà enregistrés dans cette prison depuis le début de cette année. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Pendant ce temps, les rebelles ADF ont attaqué la nuit de jeudi à hier vendredi un campement de la milice Mai Mai à Murambi. C'est un village de la localité Rugeti dans le secteur de Rwenzori du territoire de Beni. Un déplacement de la population est signalé dans la zone. André Kitenge.
C'est aux environs de 21h locales que les ZDF ont attaqué le campement Mai Mai de Murambi. Selon la société civile du secteur de Rwenzori qui livre l'information, après les affrontements, les ZDF ont incendié ce campement ainsi que tous les biens qui s'y trouvaient. Les Mai Mai se sont dirigés vers une destination inconnue. D'après la même source, cette situation a causé le déplacement massif de la population de Murambi vers la commune rurale voisine de Lomé. Contacté, le commandant FRDC dans la région indique que les soldats de deux forces conjointes FRDC-UPDF ont été dépêchés dans la zone de combat de ces hors-la-loi pour évaluer la situation sécuritaire. Le colonel Vela Verdi annonce la poursuite des ADF qui se seraient dirigés vers la colline du village Vuhumiria dans la localité de Masambo. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Les frais de participation aux épreuves de hors session exercice 2021-2022 pour les élèves finalistes du secondaire sont fixés à 80 000 francs congolais dans la province de Maïndombe. C'est l'inspecteur principal provincial de Maïndombe 1 qui l'a dit lors d'un entretien téléphonique hier vendredi. Selon lui, ces frais sont repris dans un arrêté pris par le gouverneur de province. Zéphirin Koulou-Tosso invite les chefs d'établissement à se conformer à cette disposition et à ne pas exiger d'autres frais connexes aux élèves. Les récalcitrants seront sanctionnés, a-t-il conclu. Zéphirin Koulou-Tosso, IPP du Maïndombe 1, a été joint par Irène Mbouma.
Conformément à l'arrêté de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, le frais de participation à la hors session s'élève à 80 000 francs congolais. Ces frais-là sont répartis de telle sorte qu'il y a le niveau national pour l'achat de cahiers du thème. Nous envoyons 20 000 et les autres, c'est pour les opérations sur le terrain dans les 35 centres disséminés dans la province éducative. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a précisé qu'à part ces frais-là, on ne peut pas exiger d'autres frais. Donc, on demande que ces frais-là, tous ces les chefs d'établissement qui s'abuseraient de pouvoir demander d'autres frais connexes, vont être sanctionnés conformément à la loi. Nous ne voulons pas que les antivaleurs soient cultivées dans notre province et nous avons prévenu tous les chefs d'établissement de ne demander que ces frais-là pour s'abstenir le fait des choses qui ne conviennent pas et qui ne sont pas conformes aux prescrits de la loi.
Parlons culture dans cette édition du journal. Quinoiserie, briller et s'envoler, c'est le thème d'une exposition de peinture et céramique qui a ouvert ses portes jeudi dernier à l'Institut français de Kinshasa. Le vernissage de cette exposition a eu lieu dans la salle d'expo de la Halle de la Gombe. C'est l'artiste peintre, céramiste et marionnettiste Lambert Mousseka qui signe cette exposition qui se tient du 14 avril au 7 mai prochain. Ce Congolais résident en Allemagne a préparé cette exposition depuis 3 ans. C'est le fruit d'un travail de recherche sur le phénomène de la sape et du mouvement sapologie mené à Kinshasa, Brazzaville et Paris. L'artiste immortalise en même temps quelques célébrités de la musique congolaise dont Papa Wemba. Lambert Mousseka en parle au micro de Jean-Marc Matoki.
J'ai pris la sapologie comme le tremplin pour parler de ce qui est derrière la sapologie. Ce qui est derrière la sapologie pour moi, parce que même les prophètes de la sap en ont parlé eux-mêmes en disant que la sap c'est une religion. Mais en réalité, pendant mes recherches, j'ai trouvé qu'ils avaient raison, parce que en principe, les sapeurs, ils ont une prière, et toujours en glorifiant le corps, la sap, mais ils oublient parfois de parler aussi de leur environnement. J'ai parlé de la sapologie pour faire allusion à la réalité de l'origine de la sape qui est les deux Congo, donc les deux capitales Kinshasa et Brazzaville, pour voir l'attitude, l'expression mais aussi l'intention derrière la sapologie. Le fait d'immortaliser les rois et les prophètes de la sape dont Papa Wemba, King Kester et Menea, général Defao qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, il y a aussi Jibé qui est à voir, il y a aussi Kofi Olomide. L'idée c'est d'immortaliser ces personnes qui ont nourri l'imaginaire du Congolais mais qui y ont laissé un héritage. Peut-être eux ils n'ont pas pensé que ça pouvait dépasser les frontières de la RDC.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, après la condamnation de Blaise Compaoré, son parti appelle à la réconciliation. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, sort de son silence depuis le verdict dans le procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. au cours d'une conférence de presse ce vendredi à Ouagadougou, Eddy Kombouigo, le président du parti, a déclaré que l'ancien parti au pouvoir s'abstenait de tout commentaire concernant cette décision de justice, mais il a tout de même condamné les déclarations de certains avocats de partis civils. Et puis en plus bref, en Afrique du Sud, le bilan des inondations s'alourdit à près de 400 morts.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani. Le Fonds mondial et l'ONU SIDA ont organisé du 11 au 13 avril une réunion à Nairobi au Kenya sur l'évaluation et les nouvelles stratégies pour l'éradication de la pandémie du VIH-SIDA dans la sous-région de l'Afrique Est-Ouest d'ici 2030. Le ministre Jean-Jacques Mbungani, qui a représenté le gouvernement congolais à cette rencontre, parle des enjeux, de l'intérêt ainsi que du bénéfice que la République démocratique du Congo peut en tirer. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Koko.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de Nairobi, vous avez représenté le gouvernement à une réunion politique et technique de consultation des mobilisations sur le VIH-SIDA du Fonds mondial. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette réunion et quels bénéfices la RDC peut tirer de ces genres de rencontres?
C'est dans le cadre du Fonds mondial que j'ai été à Nairobi. Je profite de l'occasion pour informer l'opinion que la RDC, à travers ma personne, a été élue comme membre permanent du conseil d'administration du Fonds mondial. Donc, je représente l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est en cette qualité que j'ai assisté à une réunion, on peut dire préparatoire, à Nairobi, à la grande réunion qui se tiendra d'ici quelques semaines à Addis Abeba. L'intérêt de la réunion, parce que vous devez savoir que le Fonds mondial est l'organisation internationale qui appuie énormément la lutte contre diverses maladies, dont le paludisme, la tuberculose et le VIH-SIDA. Dans le cas qui nous concerne, l'ONU SIDA et le Fonds mondial avaient organisé cette rencontre pour que nous puissions évaluer les efforts des 10 dernières années à la lutte contre le VIH-SIDA. Donc, on a identifié les progrès qui ont été réalisés les 10 dernières années. On a également, après identification, discuté sur les nouvelles stratégies de l'ONU SIDA et du Fonds mondial par rapport à la lutte. Parce que l'intérêt est d'éradiquer cette maladie d'ici 2030. Où est-ce que nous en sommes? Que faut-il faire? Comment y arriver?
Vous avez parlé de l'évaluation que vous avez faite. Alors, quel est l'état des lieux de la pandémie du VIH-SIDA dans la région Est et Ouest de l'Afrique actuellement?
D'abord, il faut le recadrer au niveau mondial. Actuellement, nous avons un peu plus de 37,7 millions de personnes vivant avec le VIH-SIDA. Dans ce lot qui est lourd, en millions de personnes, nous avons 27,5 millions de personnes qui sont sous-traitées. Et parmi les personnes traitées, il faut dire qu'il y a quand même 21,9 millions de personnes qui sont dans des zones couvertes par l'appui du Fonds mondial. Donc, des décès. Maintenant, chez nous, dans la région africaine, la région que je représente, que le centre et l'ouest, la contribution du Fonds mondial a été très très efficace avec une réduction de 60% des décès. Et la RDC a une réduction de moins 72% des décès. Donc, on ne peut que y être pour pouvoir augmenter la contribution mondiale dans la lutte contre cette maladie.
On sait que ce Fonds mondial a plusieurs défis en matière de santé en Afrique. Et pour cela, il a besoin de ressources financières. Où trouver ces ressources financières?
Le Fonds mondial a besoin des ressources venant des États et des donateurs. Mais nous avons maintenant levé l'option de faire un plaidoyer fort qui sera porté par les chefs d'État champions dans la mobilisation de ressources. On sait y compris le chef de l'État de la RDC, notre président, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, parce que ce plaidoyer porté par le chef d'État va mobiliser plus. Au-delà de la mobilisation des États, nous avons retenu la mobilisation des États bénéficiaires. Il faut que les gouvernements, également des pays d'Afrique, puissent se mobiliser en termes de contribution. L'RDC a fait sa part contributive en promettant 6 millions de dollars, dont nous sommes déjà acquittés de 2 millions. Le reste sont en cours d'exécution. Des États, tous les dirigeants, tous les présidents devront intégrer dans leur discours pour qu'il y ait plus de fonds nécessaires à contribuer dans la lutte. Ce qui est une chose. Nous encourageons que dans les budgets des
les États qu'on augmente la part contributive à la lutte contre le VIH-Sida et renforcer le partenariat public-privé.
Vous avez participé à cette réunion en qualité de membre entrant de la région Est-Ouest d'Afrique du Fonds mondial. Que vous confère cette qualité, Monsieur le Ministre, et quels sont les avantages que le pays, donc la RDC, peut en tirer?
Je peux dire simplement que c'est vraiment avec honneur et fierté que, au nom de la République démocratique du Congo, je suis le porte-voix de la sous-région Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre. Et c'est dans cet élan de détermination que nous allons défendre l'intérêt pour le compte de la sous-région au niveau du Fonds mondial, dans le conseil d'administration, afin que les fonds qui seront récoltés soient de manière équitable répartis dans différents pays, et ce, en fonction du besoin exprimé.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.